おかしい、おかしい。
À la maison, j'ai toi la présentation.
Bonsoir. Dès l'intérieur de la RDC, les hôteliers de la ville de Matadi au Bas-Congo demandent à l'État congolais de s'acquitter de sa créance de plus d'un million de dollars américains. À combien s'élève la dette intérieure de la RDC? Après avoir bénéficié de l'allègement de sa dette extérieure, quel mécanisme le gouvernement peut-il mettre en place pour apurer sa dette intérieure? Nos invités dans cette émission sont professeur Mathias Boabouakayembi, docteur en droit fiscal, ancien vice-ministre de l'économie et actuellement directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Michel Soumoué, analyste économique et directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC. Bonsoir, monsieur Soumoué.
Bonsoir, monsieur Michel.
La Jote Bidiour, économiste, député national et membre de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Mais vos réactions, nous les avons déjà. Albert de Kindou Maniema. Le gouvernement congolais, pendant des années, s'est toujours préoccupé pour s'acquitter de sa dette extérieure, pénalisant ainsi les initiatives locales. Mais qu'est-ce qui l'a empêché de payer sa dette intérieure? Je ne pense pas que ce sont les moyens qui manquaient au regard du train de vie de nos dirigeants. Je ne pense qu'à eux. Congo, Kababa, de Mbujima et Kassai Oriental. Nous savons très bien que la MIBA a soutenu l'économie congolaise et la guerre de l'Est. Nous voulons savoir à combien s'élève la dette de l'État congolais envers la MIBA. Merci de nous suivre à Kananga dans la province du Kasaï occidental sur 93.0 FM et partout au monde grâce à RadioCapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Les hôteliers de la ville de Matadi demandent au gouvernorat du Bas-Congo de s'acquitter de sa créance de plus d'un million de dollars américains. Le conseiller urbain de ces hôteliers, qui l'a déclaré hier lundi à Radio Capi, indique que le parti de Matadi, qui a été saisi, a exigé au gouvernorat du Bas-Congo de payer cette dette qui remonte à l'entrée de l'AFDL en 1997. Jusqu'à ce jour, a précisé le conseiller urbain des hôteliers de Matadi, aucun mouvement de la part du gouvernorat. Jean-Claude Loutité s'est exprimé au micro de Guy Roger Nyampala. On l'écoute.
Nous déclarons auprès des autorités qui nous payent nos factures. Le montant est estimé plus d'un million de dollars. Le huissier du parquet de grande instance a déposé une sommation auprès du gouvernement. Ils ont donné 72 heures pour la réaction du gouvernement, mais jusqu'à présent, il n'y a rien de spécial. Donc nous avons beaucoup de difficultés. Nos installations sont devenues très critiques. Et en plus, nous avons des problèmes avec les taxes, la régie des eaux, le SNEL, et en plus la REPER aussi. C'est notre droit, nous devons avoir ces droits.
Voilà, professeur Mathias Boabo, nous n'allons pas déroger au caractère pédagogique aussi de cette émission. Comment définir la dette intérieure d'une nation?
Oui, merci beaucoup. La dette intérieure, elle est constituée des créances des opérateurs économiques nationaux. Vis-à-vis de l'État congolais. L'État congolais apprend comme étant en fait le pouvoir central, mais également les entités administratives décentralisées. En fait, il s'agit de la dette intérieure prise au sens premier du terme est constituée normalement des bons du trésor, donc des emprunts que l'État peut faire sur le marché local. C'est-à-dire des bons du trésor qui peuvent être émis par la banque centrale, que les privés peuvent acheter, et puis qui vont être remboursés par l'État dans les conditions qui sont déterminées par ce contrat-là. Mais ce dont on parle maintenant, en fait, il s'agit des engagements des autorités, soit à l'échelle centrale, soit à l'échelle provinciale, vis-à-vis des opérateurs privés, et une dette qui est contractée dans des conditions plus ou moins anormal, si on peut dire.
Alors, donc, si on peut prendre des cas pour que nos auditeurs nous comprennent bien, il y a par exemple des fournisseurs
je viens chez l'État, je dois fournir par exemple des houes, je fournis des houes, mais l'État ne me paye pas.
Oui, effectivement. Lorsque l'État doit fonctionner d'une manière orthodoxe, il ne peut pas acheter de houes comme il veut. C'est-à-dire que tous les achats que l'État doit faire doivent être prévus tout d'abord au budget. Soit au budget de l'État central, soit au budget des entités administratives décentralisées. Et dans le budget, il est prévu de bon temps, qu'il ne faut pas dépasser. Donc les commandes que l'État peut faire doivent se situer dans le cadre budgétaire, de telle sorte que tout ce qu'on fait est tout à fait normal et budgétisé, il y a de l'argent pour payer, et normalement on devrait payer. Donc tous les achats que les services de l'État font doivent être normalement payés dans le cadre budgétaire. On ne devrait pas parler de la dette intérieure, en dehors peut-être des bons du trésor auxquels je fais allusion ici.
Il y a professeur Gabi Ekongola de Kananga au Kassai Occidental qui dit « Je voudrais savoir si les créances des fonctionnaires et agents de l'État font partie de la dette intérieure du pays. »
Bien entendu, les salaires des agents de l'État non payés constituent une partie importante de la dette intérieure du pays.
Deux autres auditeurs, Fikir Isaï du Papi d'Ouvira en Sud Kivu, de quelle manière ces dettes ont été encaissées? Je me demande si le gouvernement provincial du Bas-Congo n'a pas ses propres infrastructures ou si l'on ne prévoit pas des prêts de loyer des agents et fonctionnaires de l'État en mission. Robert Baomé de Bukavu au Sud Kivu, à quoi cette somme colossale et astronomique représentant la dette intérieure de la RDC a-t-elle réellement servi la population pourtant encore en état d'indigence indescriptible?
Bon, je pense que la dette vis-à-vis des hôteliers doit être normalement considérée comme quelque chose qui n'est pas orthodoxe. Parce que certainement qu'il s'agit des gens, des fonctionnaires de l'État ou bien des gens qui sont de passage dans ces villes de l'intérieur du pays, la situation n'est pas, disons, spécifique à la ville de Matadi. On trouve ces situations dans toutes les provinces où les autorités logent n'importe qui dans des hôtels, et puis à un certain moment, ça fait des montants extrêmement importants et puis qu'ils ne sont pas en mesure de payer. Et tout ça n'est pas prévu au budget, et tout ça dépend de la bonne volonté finalement des autorités pour pouvoir les éponger. Mais je pense que si les autorités à la base devaient bien fonctionner, elles devraient normalement, par exemple, ouvrir des guest houses de l'État. Donc prendre une maison de l'État, la transformer en guest house pour loger les gens de l'État qui sont passage par là.
Michel, pour moi, vous êtes en ligne.
Oui, je suis en ligne.
Voilà, toujours un peu dans le cadre pédagogique. Hein. Quelle différence peut-on faire entre la dette publique et la dette intérieure pour les auditeurs qui nous suivent?
Mais disons que, de façon générale, quand on parle de la dette publique, elle englobe à la fois la dette intérieure et la dette extérieure. La dette intérieure, c'est qu'il possède des emprunts effectués par l'État au sein de l'économie nationale. C'est-à-dire, l'État recourt à l'épargne publique pour financer ses programmes d'investissement, ses programmes de développement public. Et dans tous les pays du monde, il est normal que l'État recourt à l'épargne intérieure pour subvenir aux besoins exprimés par l'exécution de son budget.
Alors, à combien peut-on estimer la dette intérieure congolaise à ce jour?
Je pense que le ministre du Budget est mieux placé pour vous donner la réponse précise à cette question et le ministre des Finances aussi, mais j'ai pu entendre plusieurs fois parler de montants aux alentours de 1 milliard 200 millions de dollars aujourd'hui, comme étant le montant chiffré de la dette intérieure.
Voilà, je crois que ces chiffres correspondent à peu près à ce que nous ont confirmé certaines sources à la direction générale de la dette publique. Mais Michel Soumou, est-ce que peut-on affirmer qu'à travers la dette publique, l'État est en train de se voler lui-même?
Non, l'État qui se vole lui-même, non, plutôt l'État qui suit la branche sur laquelle il est assis, oui. Parce que le problème n'est pas en soi celui de s'endetter. Il est normal qu'un État qui conçoit un budget et qui n'a pas beaucoup de ressources propres en termes de recettes fiscales puisse recourir à l'emprunt. Et le premier emprunt que l'on effectue, dans toute façon, on marche d'abord l'emprunt intérieur. C'est-à-dire, on recourt d'abord à l'épargne intérieure qui est, créée par les opérateurs économiques, les ménages, principalement les ménages, et secondairement les entreprises au sein de l'économie nationale. C'est comme ça qu'on vous dit que la dette intérieure se développe normalement dans un environnement où il y a un marché financier organisé. C'est un marché financier dans lequel que l'État émet des titres publics d'emprunt. Ça peut être des banques de trésor, ça peut être des obligations, ça peut être toute une panoplie de titres que l'État émet pour emprunter de l'argent et donner ainsi aux épargnants les opportunités de rentabilisation de leur épargne. Donc l'emprunt public effectué par l'État au sein du marché de l'économie intérieure est une très bonne chose du point de vue économique dans la mesure où elle permet de mettre en valeur une épargne qui aurait pu être thésaurisée par les agents. Alors ces gens, épargnants comme on les appelle, on trouve ainsi l'opportunité de gagner de l'argent en suppléant aux sacrifices qui sont imposés, et l'État lui-même aussi trouve en cela l'opportunité de développer la nation, et donc en fin de compte, ça profite à tout le monde. Mais il faudrait qu'il y ait bien sûr ce soubassement bien défini, bien arrangé, qu'il y ait pour le marché financier intérieur.
Honorable l'agence Bibiou, soyez le bienvenu.
Merci.
Vous êtes économiste, député national et membre de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Nous parlons de la dette intérieure, mais il y a des cas où, prenons les cas des condamnations judiciaires et des indemnisations. Quelqu'un qui, un individu qui gagne un procès contre l'État. Mais il est arrivé des cas où ce sont des gens qui manigancent des histoires pour pouvoir vaincre l'État dans un procès. Et dans ce sens-là, l'État n'est-il pas en train de se voler lui-même, comme j'ai posé la question à Michel Sommet?
Écoutez, d'abord, merci encore. Je ne pense pas que l'État est en train de se voler lui-même. C'est-à-dire que l'État se retrouve dans une situation d'irresponsabilité. Irresponsabilité dans quel sens? Assez souvent, l'État ne donne pas les moyens à ses défenseurs, c'est-à-dire à ses avocats qui doivent aller plaider dans les cours et tribunaux. Et comme les avocats ne sont pas motivés, vous savez plus comment ça se passe dans les cours et tribunaux, ce qui fait que dans la plupart des cas, l'État perd les procès pour lesquels il est traîné devant les cours et tribunaux et, conséquence, la créance de ceux qui gagnent le procès vis-à-vis de l'État ne fait que augmenter les courants, que ce soit au niveau de l'intérieur qu'au niveau de l'extérieur. Mais deuxièmement aussi, c'est le fait qu'il y a plusieurs accords que le représentant de l'État, c'est-à-dire que les membres du gouvernement ou les membres des entreprises ou des services publics, signent au nom de l'État. Assez souvent, ils les signent mal. Ou soit, disons, les choses telles qu'elles sont, ils les signent rarement au profit de l'État, beaucoup plus à leur propre profit. Et quand l'accord a été mal négocié, mal signé, au moment de l'exécution, généralement on arrive à une situation où l'État n'est pas capable, l'État n'est pas à mesure de respecter les engagements qui ont été pris par son représentant, et ici, ce n'est pas le représentant de l'individu qui est condamné, c'est l'État qui est condamné.
Il y a Valérien Massamba de Lubumbashi au Katanga qui dit « Nos frères de Matadi gesticulent pour rien, comment voulez-vous que l'État congolais, qui n'arrive même pas à appliquer les accords de Mboudi, puisse penser à imposer sa dette intérieure? Les institutions suivantes sont mortes ou fonctionnent mal à cause des dettes de l'État. L'AC ex-Air Zaïre, l'ancien hôtel Caradia, la SNEL, la Régie des Eaux, la Gécamine, la MIBA, etc. Ce n'est pas un objectif pour le gouvernement de payer la dette intérieure. Regardons le budget national, donc pas de volonté politique.
Mais non, je crois que la volonté politique, du point de vue du budget par exemple, je voudrais prendre à titre exemple à titre le budget 2009 et même peut-être le budget 2010. En 2009, les prévisions budgétaires du gouvernement sont arrivées au niveau de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne la dette intérieure, représentait un montant à peu près de 13 milliards. Je voudrais être précis dans les chiffres pour que ceux qui suivent puissent réellement comprendre. 13 milliards 841 millions 269 777 des francs congolais. Lorsque le gouvernement paye la dette, cette dette intérieure, nous constatons, lorsque en faisant un petit contrôle de l'exécution du budget 2009, donc du 1er janvier au 30 juin 2009, nous avons constaté que le gouvernement a payé 44 765 999 998 francs congolais, soit plus ou moins 502,4%. Mais quel est le vrai problème dans ça? Le vrai problème dans ça, c'est que lorsque vous grattez la couche de vernis, vous trouvez qu'il y a à peine 5 ou 6 créanciers qui ont été payés. Et encore, je vous devais parler du non-respect de la loi budgétaire, parce que quand vous allez au-delà de ce qui a été prévu, 502,4% qui ont été payés. Mais la majorité de ceux à qui l'État doit n'ont rien reçu de l'État. Donc, au niveau du budget, chaque année, chaque exercice budgétaire, du moins depuis que nous sommes là, on a prévu. En 2010, par exemple, cette année, en ce qui concerne la dette intérieure, nous avons, d'une manière générale, nous avons, en fait, le gouvernement a prévu et nous avons accordé en tant qu'autorité budgétaire, parce que pour nous, c'est indispensable que les opérateurs économiques de notre pays puissent avoir ce que l'État leur doit pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir payer le personnel, pour pouvoir relancer l'économie de l'intérieur. Donc, l'État, le gouvernement a prévu 28 milliards de francs congolais. C'est que nous, en tant qu'autorité budgétaire, nous avons accepté, nous avons accordé. Maintenant, aujourd'hui, ne me demandez pas qu'est-ce qui est déjà fait, parce que nous n'avons pas encore effectué le contrôle de l'exécution budgétaire. Mais, mon frère ici, le professeur qui est là, je crois qu'il a déjà abordé un petit peu les aspects de tout ce qui constitue la dette intérieure. Pour que ceux qui nous suivent sachent que la dette intérieure est constituée, entre autres, des arriérés sur les dépenses du personnel. Donc, tous les fonctionnaires de l'État qui ne sont pas payés depuis, je sais pas combien d'années, de décennies,
160 mois, 180 mois,
ça constitue une dette intérieure. Il y a également le fournisseur de biens et des prestations. Ce sont des dettes, en fait, ça fait partie de la dette intérieure. Il y a également les entrepreneurs de travaux publics. Tous ceux à qui l'État dit financer d'abord les travaux de telle route ou de telle autre route, ou peut-être la construction d'un bâtiment public, mais qui, par après, ils ne sont pas payés. Il y a, le professeur a parlé de la certification des dépôts, ça fait partie de la dette intérieure, il y a les arriérés de loyer. Les fonctionnaires, les fonctionnaires de la République occupent les maisons. Et même certains ministères sont sous-logés. Donc, ils occupent, je prends par exemple le ministère de la Santé, les locataires des particuliers. Mais tout ça, ça constitue la dette intérieure.
Professeur Mathias Wabois, si la dette extérieure, dont on célèbre le point d'achèvement aujourd'hui, empêchait le développement du pays, quelles pourraient être les conséquences que peut avoir la dette intérieure?
Je pense que la dette extérieure ou intérieure, elle a la même conséquence sur le développement du pays. Elle peut avoir des conséquences positives. Conséquences positives si, par exemple, les fonds qui découlent de ces emprunts-là sont utilisés pour construire des infrastructures, pour construire des écoles, attribuer des bourses d'études, etc. Donc, pendant longtemps, il y a des financiers qui pensaient que ce n'était pas bon d'emprunter, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, mais les idées ont évolué. Au XXe siècle, tout le monde s'est rendu compte que c'était quand même bon d'emprunter, pourvu qu'on puisse destiner ces emprunts à des choses qui sont sérieuses pour le pays. Donc, ça peut avoir des conséquences positives, mais ça peut aussi avoir des conséquences négatives. Lorsque un hôtelier n'est pas payé, ou bien des agents de l'État ne sont pas payés, tous ces créanciers de l'État ne sont pas payés, ça va avoir pour conséquence pour les opérateurs économiques de les rendre non compétitifs, de les mettre en faillite. Vous avez parlé des lacs et autres caravières qui ont été mis en faillite à cause de la dette intérieure. Je crois que les conséquences sont les mêmes, les bienfaits sont les mêmes. Tout ce qu'on peut demander, c'est que on puisse accorder, disons, le gouvernement, le ministère des Finances, puisse accorder de l'importance à ses engagements, aux engagements de l'État. On doit mettre l'orthodoxie dans les dettes, dans le fait de contracter des dettes. Tout doit rester dans le cadre budgétaire, mais il faut aussi savoir que pour payer les dettes, il faut également avoir une politique de maximisation des recettes. Ce sont les recettes de l'État qui permettent de faire face aux dettes. Si l'État n'a pas cette politique de maximisation des recettes, il y a en fait une politique de promotion des investissements. Parce que c'est à travers les investissements que l'État arrive à faire des recettes pour pouvoir faire face à la dette intérieure ou extérieure.
Professeur, d'après le livre blanc de la SNEL, l'État congolais doit à la Société nationale d'électricité plus de 700 millions de dollars, à l'ex-RJR, l'actuel LAC, près de 23 millions de dollars. Peut-on considérer que finalement on est dans un cercle vicieux dans lequel l'État ne sortirait jamais?
Je ne dirais pas qu'on est dans un cercle vicieux, parce que l'État peut toujours... L'État ne peut pas tomber en faillite, tout d'abord, parce que l'État aura toujours des possibilités d'avoir de l'argent. Il suffit qu'il puisse augmenter le taux des impôts
gré ou de force
pour avoir de l'argent à faire face à la dette. Tout ce qu'il faut demander, c'est de pouvoir, accorder de l'importance au budget de l'État. Au budget de l'État, lorsque les crédits sont votés par le Parlement, parce que l'honorable nous a parlé ici des crédits qui sont prévus dans le budget, mais souvent ce sont des saupoudrages. Ce sont des crédits qui ne sont pas suffisants pour faire face à la situation
réelle.
Donc on fait comme si on prévoit quelque chose. Donc dans la prévision, il faut qu'il y ait, que ça soit sérieux, et dans l'exécution également du budget, que ça soit sérieux, pour que les chiffres qui sont inscrits dans le budget ne sont pas des chiffres comme ça. Donc, c'est au budget, mais on verra ça. Moi, je n'ai pas le temps de payer, on verra ça après. Je pense que si on ne fait que repousser le paiement de cette dette-là, on se met dans une situation difficile. Donc, il faut aborder la situation au jour le jour, en privilégiant, pourquoi pas, les Congolais, tout d'abord. Parce que lorsqu'on ne paye que 5 personnes, parfois, on se rend compte que ce sont des étrangers, bien des Libanais, des gens qui savent entrer facilement dans le bureau de l'État, qui sont payés. Mais les Congolais, les petits Congolais qui sont en Matadi, qui sont
les fonctionnaires,
eux, ils ne sont pas payés, et je pense que ce n'est pas bien. Il faut privilégier tout d'abord les Congolais, il faut privilégier même la dette intérieure par rapport à la dette extérieure, parce que la dette intérieure laisse toute l'indépendance à l'État, toute la liberté à l'État, il n'y a pas de conditionnalité, mais il faut que l'État lui-même soit un État qui fonctionne dans le contexte de... disons, de sécurité juridique, en donnant la sécurité aux gens, en payant lui-même d'une manière loyale ce qu'il doit aux gens.
Michel Soumoué, comment ça se passe hein, dans d'autres pays? On est un peu curieux de le savoir. Le professeur Bois dit que l'État devrait apprendre à respecter ses engagements, à respecter le cadre budgétaire, à maximiser les recettes et à privilégier d'ailleurs le paiement de la dette intérieure hein, par rapport à la dette extérieure.
Oui, c'est exact. Je vous ai parlé de l'organisation des marchés financiers comme étant le cadre d'emprunt, justement, par l'État. Parce que le problème qui se pose chez nous, c'est le problème d'abord de la nature de la dette extérieure, de l'intérieur. La nature elle-même, elle est malheureuse de l'intérieur. L'intérieur de l'État se résume en quoi? Ce genre de petite histoire très regrettable du genre, l'État n'a pas pu payer les salaires du voisin, l'État n'a pas pu payer ses factures la semaine, il n'a pas pu payer ses factures. En fait, c'est une sorte de déclaration de faillite de la part de l'État. C'est un peu sur la forme de l'intérieur. La dette intérieure devrait être plutôt active que passive. Elle devrait voir la dette intérieure comme étant le reflet d'une politique active, d'une politique de développement de l'État, qui va faire des épargnants, qui emprunte à l'intérieur, et qui lance des projets visibles, et on les voit. Tous les pays du monde que vous voyez qui sont organisés, qui sont notre pays moderne, ont développé d'abord les marchés financiers comme étant le cadre. Même le cadre, souvent le cadre de privatisation, quand on veut privatiser une entreprise, il faut qu'il y ait au préalable un marché financier. Quand on veut développer une grande politique de l'État d'emprunt, il faut un marché financier. C'est le cadre le plus crédible du développement ou même des emprunts effectués par l'État. Nous n'en avons pas. Aux États-Unis d'Amérique, on parle de la dette publique. Il s'agit en priorité de la dette intérieure de l'État. Ce n'est pas une mauvaise chose, j'insiste. Elle n'est pas une mauvaise chose lorsque la dette intérieure est contractée par l'État et que cela, en conséquence, rapporte des intérêts, comme ça qu'on appelle aussi des rendements, aux épargnants qui ont prêté librement à l'État. Au Japon, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est vrai que les Américains sont un peu plus du côté de marché financier, les côtés japonais sont plus du côté secteur bancaire, mais en Europe, c'est entre les deux. Le marché financier et le secteur bancaire, les deux sont privilégiés de la même façon. Quand on parle du secteur bancaire, ça veut dire que l'État pouvait aussi s'endetter auprès d'une banque, contracter des crédits auprès de la banque, comme tous les pays le font. Mais de façon générale, le marché qui se développe le plus dans le monde, c'est le marché de l'emprunt, de l'épargne, des privés, qui font des ménages, des entreprises dans les nations. C'est ce qui se passe à travers le monde. Nous, je veux que nous devons corriger. Nous n'avons pas un marché financier au Congo, malheureusement. Alors l'État se suffit d'un comportement à la limite un peu délinquant. C'est ça le problème. Alors, ça prend un crédit et ne s'est pas remboursé. Je dois payer les intérêts et tout, il doit s'intervenir. Seulement, ça devient de la délinquance.
Michel Sommet, il y a aussi le problème de la maîtrise du montant effectif de cette dette, hein, parce que quand on voit du côté de l'ex-OGDEP, l'actuel BGDP, le rapport 2006-2008 au sujet de la dette n'a été présenté qu'en septembre 2009, donc il y a même déjà un problème au niveau des mécanismes pour, s'il faut dire, répertorier cette dette.
De façon générale, l'outil statistique chez nous est trop lacunaire. Ça, c'est connu. C'est déjà beaucoup si le GDP vous fournit des renseignements avec une année de retard. Mais qu'est-ce qu'on fait du côté de la Banque centrale, par exemple? Vous n'avez pas encore de la France en mieux qui fait avec 3 ans de retard, 2 ans de retard. Alors que c'est ça qui constitue la base des données la plus large de ce pays sur tout le secteur d'activité de l'économie nationale. Alors, l'INS, comme on a bien sûr, national de la statistique, je ne sais pas comment il fonctionne encore, il ne sait même pas, il a une forme de financement. Donc, l'appareil statistique chez nous est trop d'accueillère, et fait que l'information économique en général, sa dette, l'information économique en général, chez nous, elle est malheureuse, catastrophique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons peu d'investissements étrangers, vous avez, on a trop d'investissements étrangers au Congo, parce que l'information d'abord n'y est pas. La création, la formation de l'information, la gestion de l'information, ça pose sous la forme d'un renseignement statistique qui serait clair, précis. Ça pose beaucoup de problèmes dans notre pays. Parce qu'il y a déjà des problèmes de financement intérieur qui sont, je ne voudrais pas trop y revenir, des problèmes d'absence d'une politique de crédit dans le pays qui puisse développer la nation. Et quand je parle du marché financier intérieur, le marché financier suppose d'abord l'existence d'un marché monétaire intérieur qui sert de socle au développement des marchés financiers. Et les marchés monétaires supposent à son tour l'existence au préalable d'une monnaie viable et qui puisse fonctionner, qui serve d'instrument, d'étalon, des valeurs de toute l'économie nationale. Pas une économie bidon, pas une monnaie bidon qui est suppléée régulièrement par des monnaies étrangères. C'est tout ça qui force les jeux économiques dans ce pays et qui fait que même l'information économique ne peut pas être crédible. À sa place, il y a des coûts de transactions énormes qui font peur à tous les autres investisseurs économiques.
Merci. Honorable Lazos Bidiou, est-ce qu'on peut dire que ce montant hein, d'1,3 milliard dollars américains comme dette intérieure est un montant forfaitaire?
Non, est-ce que c'est un montant forfaitaire? Je ne pense pas que ce soit un montant forfaitaire parce que ça doit être des chiffres qui ont été certifiés, donc ça doit pas être, ce ne sont pas des montants forfaitaires. Mais maintenant, peut-être que à l'origine, ça ne devait peut-être pas être un milliard. Et si l'État payait régulièrement ses dettes, je crois que les différents responsables de toutes ces dettes-là n'allaient peut-être pas exagérer dans la facturation. Parce que le fait que l'État ne paye pas vite ses engagements, quand on lui fournit des biens ou des services, malheureusement, la situation qui se produit sur le terrain, c'est que la personne fait qu'il sera payé peut-être dans 6 mois, dans une année, le produit pour lequel il aurait pu demander 20 000 francs, eh bien, il double, si pas il triple, le montant. Parce qu'il est conscient qu'il ne sera pas payé dans les 6 mois qui suivent. C'est là aussi le grand problème que nous avons. Donc, dès que l'État se mettra un jour à payer régulièrement ses dettes vis-à-vis de ses créanciers, vous verrez que, au fur et à mesure, le montant de la dette ne fera que décroître au lieu de croître.
Mais le professeur Boisbois a parlé du saupoudrage au niveau du budget. On présente un budget qui ne répond pas aux problèmes réels des citoyens.
Oui, nous l'avons toujours dit. Je suis heureux que ce soit le professeur Boisbois qui le dise à ses membres du gouvernement et pas n'importe lequel, le vice-ministre des Finances, quoi.
Alors, de l'économie.
De l'économie, oui.
Mais c'est finance aussi.
Oui, finance aussi, parce que je me souviens encore qu'il était vice-ministre des Finances. Donc, il sait de quoi il a parlé. Nous essayons, au niveau, par exemple, de l'Assemblée nationale, chaque année, la commission ECOFIN ne fait que améliorer les prévisions budgétaires telles qu'elles sont présentées par le gouvernement. Là, depuis 2007, 2008, 2009, 2010. Parce que, pour nous, le gouvernement est souvent paresseux pour aller chercher les recettes qui doivent être canalisées vers les trésors publics. Et c'est dans ce sens, c'est en tant qu'autorité budgétaire, nous avons dû travailler, d'aller diminuer certaines recettes que nous considérons d'ailleurs comme éludées pour les ramener à la surface et qu'elles soient prises en compte. Vous vous souviendrez que pour le budget 2010, par exemple, nous avons eu des problèmes avec le gouvernement. Lorsque nous avons trouvé plus de 800 millions de dollars supplémentaires, en fait, que nous avons considéré comme des recettes éludées, le gouvernement, par la voix du vice-ministre du budget, nous a dit que c'était des recettes aléatoires. Mais lorsque nous avons défendu, nous avons démontré à Soubé que ce n'était pas de recette aléatoire, la suite vous la connaissez, toutes ces recettes ont été prises en compte. Maintenant, ce n'est pas à nous de mobiliser les recettes. Il appartient au gouvernement de mobiliser ces recettes. Donc c'est vrai que le budget que nous avons, c'est un budget minable, hein, de 3 milliards. Parce que quand on parle de 5 milliards, n'oubliez pas qu'il y a des appuis budgétaires de nos partenaires. Sinon, de nous-mêmes, nous avons peut-être dégagé 3 milliards de dollars. Mais bon, est-ce que nous pouvons arriver à 10 milliards? Est-ce que nous pouvons arriver à 15 milliards? Même 10 milliards, ce ne serait pas suffisant, mais ça serait déjà un pas vers l'amélioration des conditions de vie de notre population. Je dis, oui, notre pays est capable de mobiliser 15 milliards.
Honorable, il y a cet auditeur Mabonda Ange de Mbandaka à l'Équateur qui dit, je pense qu'en payant ses dettes extérieures, toutes ces années au détriment de celles du pays, le gouvernement a tout simplement déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul.
Écoutez, d'abord, il faut être honnête. Lorsque vous avez contracté une dette, il faut la payer. Ou alors ne contractez pas de dette. Mais lorsque vous avez contracté une dette, que ce soit qu'il s'agisse de la dette intérieure ou de la dette extérieure, il faut payer la dette. Parce qu'il y a même un adage qui dit qu'il paye ses dettes sans argent. Si vous voulez qu'on vous fasse confiance, il faut nécessairement payer vos dettes. Il ne faut pas se demander, ce n'est pas nous, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent qu'on a. Non. Lorsque vous arrivez au pouvoir, vous prenez et l'actif et le passif. Donc, ce qu'il faudra retenir pour mon compatriote de Mbandaka, c'est que l'État a l'obligation de payer et la dette intérieure et la dette extérieure. Parce qu'à un moment donné où l'État était en difficulté, ses créanciers lui ont apporté des moyens pour lui permettre de résoudre les problèmes qui étaient les siens. Voilà.
Alors, si vous venez de prendre cette émission en cours, juste vous rappeler que nous parlons de la dette intérieure de la RDC. Les hôteliers de la ville de Matadi au Bas-Congo demandent à l'État de s'acquitter de sa créance de plus d'1 million de dollars américains. À combien s'élève la dette intérieure de la RDC? Après avoir bénéficié de l'allègement de sa dette extérieure, quel mécanisme le gouvernement peut-il mettre en place pour assurer sa dette intérieure? C'est la deuxième partie de cette émission. Avant de poursuivre, voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Professeur Mathias Boisbois, je rappelle que vous êtes docteur en droit fiscal, ancien vice-ministre de l'économie et des finances, actuellement directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en API. Quel mécanisme le gouvernement peut-il mettre en place pour apurer sa dette intérieure?
Bon, je pense que avant de parler de l'apurement de la dette extérieure, il faut peut-être parler de l'encadrement de la dette extérieure. Parce que vous avez posé la question à l'honorable de savoir si cette dette va-t-elle augmenter toujours ou bien elle va se stabiliser quelque part. Je pense que la dette peut augmenter s'il n'y a pas de mesure d'encadrement. Parce que je suis certain qu'il y a des dettes qui sont intéressantes pour le pays et des dettes qui ne le sont pas du tout. Je suis certain que dans les engagements du gouvernement vis-à-vis des hôteliers, il y a peut-être des choses qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas de rapport avec l'état du monde. Donc il faut prendre des engagements pour que les dettes qu'on contracte soient des dettes qui rapportent quelque chose à l'État congolais. Que ce ne soit pas des dettes privées et que ce ne soit pas des choses qui relèvent du manque de rigueur dans la gestion de l'État. Maintenant, les mécanismes d'attiration de la dette, ce sont des mécanismes, disons, budgétaires. Il n'y a pas d'autres mécanismes que les mécanismes budgétaires. Il faut que l'État puisse, à partir de son budget, payer la dette, ou bien l'État peut contracter la dette extérieure pour disposer de l'argent permettant de payer la dette intérieure.
Alors, professeur, je ne vous arrache pas la parole, mais dans l'état actuel, nous venons de bénéficier d'un allègement de la dette extérieure. Est-ce que l'État congolais peut prendre ce risque-là de s'engager encore pour payer la dette intérieure?
Oui, bien entendu, ça s'est déjà arrivé. Il y a 3 ans, je pense, j'étais membre d'une commission d'apurement de la dette intérieure. Et cette opération se faisait sur base d'un financement extérieur qui était venu de la Banque mondiale. C'était 40 millions de dollars qui servaient à payer la dette intérieure. Donc c'est quelque chose qui est concevable parce que je pense que le fait d'avoir atteint le point d'achèvement, ça ne veut pas dire que nous n'allons plus emprunter sur le plan international. On va continuer à emprunter, mais en le faisant d'une manière un peu différente que dans le passé. Parce que on l'a fait dans le passé pour ce qu'on appelait les éléphants blancs. Maintenant, on peut le faire pour des choses beaucoup plus précises et des choses de proximité qui touchent la population directement. Je crois que si on explique cela, même les institutions financières internationales peuvent être attentives et prêtes à nous accompagner dans ces opérations.
Ah, mais professeur, vous avez fait allusion à la commission à laquelle vous avez pris part, mais il y a dans ce genre de commission, il y a des entreprises ici à Kinshasa où, par exemple, quelqu'un qui a 30 ans d'ancienneté et à qui devrait recevoir, par exemple, 10 000 dollars et on lui dit c'est 1 500 ou 2 000 dollars ou rien à prendre ou à laisser. À ce moment-là, n'est-ce pas une façon de tromper la population?
Bon, je pense que cette opération-là n'avait pas visé les rémunérations. Elle avait visé d'autres dettes en dehors de salaire des agents, mais on payait avec une décote qui était de 80-90%. Donc, vous acceptiez de perdre 90% de votre dette pour recevoir seulement 10%. Bon, au lieu de tout perdre, on peut dire que c'est une façon de tromper les gens, mais autant avoir quelque chose que ne tenait rien du tout. C'est ça.
Honorable Lajos Bidiou, je rappelle que vous êtes économiste, député national et membre de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Le professeur Boisbois parle du respect du budget et qu'il faut recourir au budget comme un mécanisme d'apurement.
Évidemment, comme il a dit, il y a un autre mécanisme pour appuyer la dette, qu'elle soit intérieure ou extérieure. L'État n'a comme instrument que le budget. L'État ne peut pas dépenser en dehors du budget. Et d'ailleurs, le débat est en cours pour le moment par rapport, par exemple, à la réaffectation de ce que le gouvernement congolais ou la République devait à nos partenaires. Faut-il un collectif budgétaire ou ne pas recourir au collectif budgétaire? Le gouvernement à lui seul ne peut pas décider, il peut prévoir, il doit proposer, mais l'autorité budgétaire, qui est le Parlement, c'est elle qui doit autoriser. Donc le professeur a raison, on ne peut pas aller en dehors du mécanisme budgétaire pour pouvoir rembourser nos dettes.
vis-à-vis de l'extérieur ou vis-à-vis de l'intérieur. Il y a cet auditeur venant au Abelo de Matadio Bakongo qui dit « Les gouvernements provinciaux peuvent bien payer cette dette intérieure, mais la décentralisation non effective de toutes les provinces freine cet élan des provinces à s'acquitter de leurs obligations. Je suis convaincu que si le gouvernement a du mal à rétrocéder aux provinces à plus forte raison, comment pourra-t-il payer sa dette intérieure ?» La décentralisation hein, dans le paiement de la dette intérieure honorable.
Écoutez, merci Alain, je salue Monsieur Vénard. Non, il faudra pas que les provinces puissent continuer à prendre comme prétexte la rétrocession du gouvernement central. Parce que le gouvernement central, ou l'État d'une manière générale, à travers le mécanisme de la libre administration de provinces et de la loi sur l'identité territoriale décentralisée, le gouvernement central s'est délesté de certains de ses moyens.
Donc, dans les cas du Bas-Congo, c'est, pour ces hôteliers, c'est le gouvernorat qui peut payer.
Donc, on va, je voudrais plutôt d'abord
revenir
par rapport à la préoccupation de votre auditeur de tout à l'heure. Les provinces, vous voyez ici à Kinshasa, on a créé, le gouvernement provincial a créé la DGK, à Matadi, au Bakongo, Congo central, on a créé la RPR. La RPR qui vous réalise par mois, ce n'est peut-être pas assez, je comprends, 500 à 600 millions de francs congolais chaque mois. Ça veut dire que en une année, on est autour de 6 milliards de francs congolais. Mais pourquoi est-ce que ne peut pas la province, pourquoi est-ce que la province ne peut pas prendre en charge cette dette? Parce qu'en plus, si la province payait, mais ne fait que relancer l'économie de la province. Mais ça ne paye pas. Il est en train de condamner ses propres hommes d'affaires à ne pas avancer, à ne pas progresser. Il est toujours à rester, en fait, dans la pauvreté.
Michel Soumoué, vous êtes analyste économique et directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC. Il y a Chikala Ilunga de Londres, en Grande-Bretagne, qui dit « Je pense que parmi les mesures pour apurer la dette intérieure, l'État doit réduire, par exemple, de 25% les dépenses et les salaires dans les institutions telles que la présidence de la République, le gouvernement, le Parlement. Qu'est-ce que vous en pensez ?»
Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça serait une chose parce que je ne crois pas que les amis de la présidence de la République sont en ce salaire-là costaud. Je ne pense pas. Au contraire, même les parlementaires, quand on parle d'un salaire de 4-5 000 dollars, je ne crois toujours pas encore que c'est assez, à mon humble avis. Je pense qu'au contraire, il faudrait encourager le gouvernement à développer une politique salariale qui puisse permettre à tous les citoyens congolais et tous les travailleurs de bénéficier d'un pouvoir d'achat qui leur permet de vivre correctement. Il ne faut pas qu'on continue cette mauvaise politique de mauvais salaire qui vide le concept même du salaire, de son contenu économique, et ce qui est à la base de la prolifération, de la corruption et des manières que vous connaissez qui permettent aux gens de survivre à des 10%, des 20%, des 30% de vous entendez parler. Mais je crois qu'on doit arrêter une politique salariale qui est responsable. Je ne suis pas tout à fait qu'il faille aujourd'hui réduire les salaires des gens, mais je crois qu'il faut plutôt remonter les salaires de ceux qui n'en ont pas. C'est un peu dommage.
Conclusion, Michel Sommet, parce que l'émission touche déjà sa fin.
Mais je crois que si l'État congolais veut vraiment être sérieux dans la gestion des finances publiques, tout comme dans la gestion, c'est la gestion du budget, dans la gestion de la politique monétaire, vous voulez pas faire les deux bêtises d'un gestion que peut-être qu'il veut s'allier avec vous, il est important qu'on pense rapidement à la création des marchés financiers pour permettre un véritable flux de revenus.
Merci. Merci, terminez votre idée en un mot, je vous en prie. Merci, professeur Boba, conclusion.
Merci beaucoup. Je pense que, effectivement, l'État va toujours continuer à recourir à la dette intérieure pour financer ses opérations. Mais il faut que le ministère des Finances et les provinces puissent être responsables dans le paiement de ces dettes-là pour permettre à la machine économique de tourner.
Honorable Laos Bidiou, un mot pour conclure.
Merci, Mme Comanil. Merci Alain, en fait, qu'il s'agisse des gouvernements provinciaux ou du gouvernement central, il faut que chaque gouvernement se rende compte qu'il doit payer les dettes. Il faut de la rigueur dans la gestion. Tant qu'il n'y a pas de rigueur dans la gestion, tant qu'il y a des détournements par-ci par-là, tant qu'il y a de mauvais accords qui sont signés pour lesquels les entreprises sont signées, eh bien, l'État va toujours partir l'argent qu'il aurait dû utiliser pour relancer l'économie nationale.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de votre attention. C'est la fin de cette émission. Mise en onde de Jean-Claude Nsiala, préparation Guy Maté, Kenny Kouté, Samuel Kachak, sous la supervision de Pélékité Lamondo, présentation Alain Héroux, Mouchis. Restez branchés sur la radio de la paix. Au revoir.
Oh, God, please.